700 à 3841 points. C'est Antoine Berlin à la Bourse de Paris pour France Inter.
Merci Antoine. Vous écoutez France Inter, il est 14h03, l'heure de retrouver bien sûr Patrice Gélinet, 2000 ans d'histoire.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'émission avec Dominique Baudis qui était prévue étant reportée à plus tard, nous vous proposons la deuxième partie de notre série sur les Maghrébins de France. Aujourd'hui, l'intégration à l'épreuve.
Une beurette au secrétariat d'État au développement durable. Il s'agit de Tokia Saïfi. Cette députée européenne est la première femme issue de l'immigration maghrébine à entrer dans un gouvernement de la 5e République.
C'est vrai que je fais partie d'une génération qui a grandi dans ce pays, qui se sent français à part entière et qui aime son pays. C'est banaliser la présence de ces enfants d'immigration.
D'histoire. Qu'on le veuille ou non, l'arrivée et l'installation en moins d'un siècle de plusieurs centaines de milliers d'immigrants venus d'Afrique du Nord a profondément transformé la société française. Malgré la naturalisation et l'accès d'un certain nombre d'entre eux, on vient de l'entendre, aux plus hautes responsabilités, ils sont encore victimes d'un racisme qui freine la politique d'intégration de tous les gouvernements français depuis plus de 40 ans. Travaillé en outre par l'islamisme radical, très attentif à ce qui se passe au Proche-Orient et sensible à l'évolution du conflit israélo-palestinien, les Français ou les étrangers d'origine algérienne, tunisienne ou marocaine ont même la nostalgie d'un pays que beaucoup d'entre eux, nés en France, n'ont jamais connu, et se sentent moins des Maghrébins de France que des Maghrébins en France. Jean-François Arin au Stade de France, le jour d'un match de football France-Algérie le 6 octobre 2001.
La composition de l'équipe de France, l'hymne national, la Marseillaise, l'équipe de France copieusement sifflée tout au long de la rencontre. Un match qui s'achèvera prématurément dans la confusion la plus totale. La pelouse était hélas prévisible, étant envahie par quelques centaines d'exaltés brandissant le drapeau algérien. La fête gâchée, Marie-Georges Buffet, la ministre de la Jeunesse et des Sports, et Claude Simonet, le président de la Fédération Française de Football, tentant vainement, micro à la main, de calmer les trublions.
Michel Cadet, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous avons parlé avec vous hier de l'arrivée des Maghrébins en France, mais sans évoquer encore le problème de leur intégration, qui n'est pas une chose évidente, hein, si l'on en croit ce que l'on vient d'entendre, la Marseillaise sifflée au Stade de France il y a 3 ans, le drapeau algérien brandi par des enfants d'immigrés 40 ans après les accords d'Évian, comme si la guerre d'Algérie n'était pas finie. Alors bien sûr, on a dit à l'époque qu'il s'agissait, en 2001, il s'agissait d'une minorité, mais quand même, ça pose le problème de l'intégration, et on peut se demander si elle est une réalité, alors qu'on en parle depuis des années.
Là, je crois que ça pose un problème plus subtil. Les Maghrébins, enfin ici, en l'occurrence, les jeunes d'origine, dont les familles sont d'origine algérienne, et qui pour une partie d'entre eux étaient sans doute français, ben, ils se voient comme appartenant à deux nationalités. Ils sont français et algériens, ou algériens et français. Les deux comptent pour eux. D'ailleurs, ils sont sans doute plus français en Algérie et plus algériens en France, ce qui est problématique. Ils ont un problème d'identité. Ils sont pas schizophrènes, hein, mais ils ont un problème d'identité. Et tout d'un coup, la reconnaissance d'une équipe algérienne sur un terrain français, ça, je pense, bon, il y a eu des débordements.
Oui, mais il y a la Marseillaise sifflée quand même.
Mais parce que quelque part, il y a une des identités qui a bousculé l'autre, et je crois qu'elle a bousculé l'autre parce que c'est une identité qu'on leur fait sentir, même quand ils sont français, une identité étrangère, et donc du coup, elle a bousculé l'autre. Hein. Je crois que ce qu'on doit voir, c'est une espèce de nostalgie aussi, peut-être pour un pseudo-paradis perdu, parce que l'Algérie, comme la France, ne sont pas des paradis, ce sont des États. Hein. Finalement, ils auraient peut-être aimé préféré être algériens que français, mais ils sont français, puis ils vont le rester.
Alors, il y a peut-être aussi une réaction au racisme. racisme dont sont victimes les Maghrébins ou les Français d'origine maghrébine, plus que d'autres étrangers, depuis leur arrivée en France. Écoutez ce Tunisien au micro de France Culture il y a déjà 30 ans, en 1975.
Je suis Tunisien. Quand je suis parti de là-bas, j'avais déjà mon bac. Puis j'avais cru que la France, quoi, c'était le paradis, quoi. Puis quand je suis arrivé là, ben, j'ai vu la vérité en face, quoi. Nous sommes méprisés, voilà, c'est ça. On passe 8 heures à l'usine et puis on rentre là, bon, on passe la nuit au foyer, la journée au foyer. Mais quand on va, même si on a de l'argent et puis on arrive à manger dans des bons restaurants, eh bien on n'est pas considéré. Même si on paye la même somme qu'un Français ou qu'un Allemand ou qu'un Américain, eh ben, je sais pas, on est toujours spécial, quoi. On est toujours des Arabes. Les gens, eh ben, ils parlent devant moi des bounoules, quoi. Ils les appellent bounoules ou des ratons.
Ça existe encore, ça.
Oui, ça existe.
Que tu sois de Arabes, Nanterre ou Berlinienne, que le poste de Fousse, un robin, il est mis au lâcher. Que tu sois de Arabes, Nanterre ou Berlinienne, que le poste de Fousse, un robin, il est mis au lâcher. Que tu sois de
Dans Giorgiura, c'est une très très jolie chanson, Michel Cadet. Pourquoi, on l'a entendu tout à l'heure dans l'archive à l'instant, pourquoi est-ce que les Maghrébins de France ou en France, ceux qui sont français mais d'origine maghrébine, sont-ils plus victimes du racisme que les autres étrangers?
Alors, d'abord, c'est une archive qui avait 30 ans. Hein.
Oui, mais même aujourd'hui, les propos sont les mêmes.
Pas toujours. Hein. Moi, je suis dans une université qui a la première proportion, je crois, en France de Maghrébins, donc proportion, hein, c'est pas par rapport au nombre total, et ça va, hein, ça se passe bien. Mais enfin, bon, c'est pas le problème. Je crois que effectivement, l'un des problèmes qui se pose, c'est que beaucoup de Français ont un compte à régler avec les Algériens. C'est-à-dire qu'il y a eu, à tort, mais il n'y a pas eu de dépassement de la guerre d'Algérie. Il y a eu un contingent énorme qui a été là-bas. Il y a des jeunes gens qui ont été traumatisés. Ça les excuse pas. Quand ils sont rentrés, ils ont développé un sentiment anti-maghrébin, c'était l'adversaire. Alors ils l'ont largué à une partie de leur famille, certains mouvements politiques en ont fait leur chou gras, et effectivement, je crois que c'est la guerre coloniale qui nous reste à enterrer complètement. Je crois qu'on est en train de l'enterrer quand même.
Alors quand on parle de maghrébin, c'est quelque chose, c'est une réalité qui recouvre beaucoup d'autres. Ce livre auquel vous avez participé le rappelle, Michel Cadet, Maghrébin de France. Parce que, bon, comment les définir? Il y a un problème d'identité. C'est pas par leur nationalité. Beaucoup d'entre eux, nous l'avons rappelé hier, sont français.
Les autres ont une nationalité bien claire. Hein. Oui. Ils sont tunisiens, algériens, marocains. Ils sont pas maghrébins. Hein.
Et les Marocains, d'ailleurs, aujourd'hui, sont plus nombreux, je crois, que les Algériens. En tout cas, les étrangers, hein, pas les naturalisés. Mais les étrangers marocains en France sont plus nombreux que les Algériens. Mais on peut même pas dire, on entendait tout à l'heure aussi dans cette archive, et on l'entend encore aujourd'hui, qu'ils sont traités de bougnoules, de ratons et d'arabes. Or, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que beaucoup de gens ignorent en France, c'est que la majorité de ces Maghrébins ou de Français d'origine maghrébine ne sont pas arabes.
Oui, pour une bonne partie de ceux qui ont émigré pour l'immigration de travail, donc de leur famille, c'était des Kabyles ou des Chleux, c'est-à-dire c'était des Berbères et largement berbérophones. Bon, mais enfin, ils sont bilingues hein, quand même. Mais je crois que quand même, par contre, comme le discours raciste n'est pas un discours subtil, donc personne ne les a jamais traités de Kabyles, hein. On les traite d'arabes. Donc, du coup, ils viennent arabes, hein, même s'ils ne le sont pas du tout.
Alors, on peut les définir ni par nationalité, ni même par le fait qu'ils sont arabes, parce que beaucoup d'entre eux sont berbères. Reste la religion majoritaire, qui est l'islam. C'est l'islam sunnite, hein, pour la majeure partie.
Pour la majeure partie des Maghrébins. Mmh. Hein, parce que, enfin, il y a quelques rarigites, mais enfin, on ne va pas rentrer dans les détails. Effectivement, pour la majeure partie des Maghrébins des trois pays du Maghreb, ce sont des sunnites de rite malékite, oui.
Est-ce qu'on peut justement définir ces Maghrébins de France par leur religion et dans quelle mesure elle est pratiquée?
Alors d'abord, si on est défini par leur religion, On augmente le nombre parce que il y a en France des musulmans qui sont pas d'origine maghrébine et qui sont d'ailleurs assez nombreux, y compris les Comoriens, les Sénégalais, enfin d'origine sénégalaise, plus d'origine moyenne-orientale, etc. Les une partie des Libanais. Donc effectivement, ça pose un problème. Je crois malgré tout que ce qui les réduit quelque part, ce qui les caractérise à pour les autres et pour eux-mêmes, c'est effectivement l'appartenance à une culture religieuse. Je dirais plus d'une culture religieuse qu'une religion, parce que au fond, généralement, il y a des Français qui sont d'origine catholique ou protestante, qui sont plus ou moins joyeusement agnostiques ou athées, mais qui ont été baptisés, les uns qui ont fait une communion, qui ont fait des choses comme ça, et qui sont comptés parmi les catholiques, parce qu'ils ont une culture catholique, et ils fêtent Noël, par exemple. Et je crois que là, on a la même chose. On a des gens qui sont de culture musulmane, et que on appelle les musulmans, comme on dit, les catholiques d'Italie.
De même que les juifs aussi, non pratiquants, pratiquent tout ce qu'ils peuvent. Justement, là vous le rappelez dans ce livre, les maghrébins, qu'ils soient tout non pratiquants, pratiquent tous en revanche les grandes fêtes musulmanes, qu'ils soient l'Aïd el-Kébir ou encore le Ramadan.
Ah oui, ça c'est ce qui est quand même le plus intéressant, parce que l'Aïd el-Kébir finalement, l'Aïd el-Kébir c'est une fête, hein, alors qu'on pratique une fête, c'est normal, c'est pas douloureux en soi, tandis que le Ramadan c'est pas douloureux, mais c'est difficile. Hein, et c'est une ascèse, c'est quand même jeûner, même si quelquefois certains s'arrangent.
70 jours, c'est beaucoup.
Ce qui est important, c'est que 75% de pratiques, mais pour moi, qui ai longtemps vécu dans des pays musulmans, c'est que 25% ne le pratiquent pas, ça me paraît presque plus frappant.
Alors, cela dit, il y a d'autres choses qui font problème dans la pratique religieuse. Il y a notamment, bien sûr, le voile, d'ailleurs, dont le port suscite des polémiques depuis très longtemps, depuis le 4 octobre 1989, Patrice Bertin.
Étonnant conflit dans un collège de Creil, dans l'Oise. Fatima, Leïla et Samira, deux élèves marocaines et une tunisienne, ne sont plus admises au cours parce qu'elles portent le Chador, le voile islamique.
Perdu dans la banlieue de Creil, coincé entre des blocs de HLM, le collège Gabriel Avez. Ici, 876 élèves étudient, dont 500 musulmans. Il y a 15 jours, la petite Samira, 14 ans, est sortie de sa classe en pleurs, renvoyée pour avoir porté le foulard traditionnel. Depuis, Samira reste à la maison. Son père refuse qu'elle reprenne les cours.
Je crois qu'il n'y a pas une loi qui interdit un port de foulard. Chacun est libre quand même de porter ce qu'il veut. C'est un signe de respect envers la fille, c'est pour cacher ses cheveux, et n'est plus sur moi.
Le problème n'est pas, monsieur, d'un simple voile. Il s'agit de l'affirmation abrupte d'une appartenance religieuse. Nous nous disons que ce type de comportement contrevient à la laïcité de l'établissement et est de nature à perturber gravement le fonctionnement de l'établissement.
Un voile sur un visage qui n'a pas d'âge, rien qu'un regard cerné de noir, assez brûlé. Un voile fait pour cacher tous les péchés, lèvres, cheveux si dangereux, si désirés.
Bernard, un voile. Alors dans le livre dont vous êtes un des auteurs, Maghrébin de France, Michel Cadet, il y a justement, il est écrit, alors ce livre est antérieur à la loi sur l'interdiction du port du voile.
On ne remettra pas en cause la loi.
Vous la mettez pas en cause, mais je voudrais savoir ce que vous en pensez, vous par exemple, qui êtes vice-président de l'Université de Perpignan.
Oui, alors c'est la rencontre entre deux raisons et deux raisons qui s'opposent l'une à l'autre. Jean Renoir, dans La Règle du Jeu, disait que chacun a ses raisons et que c'est bien dommage parce que, effectivement, si toutes les raisons sont bonnes, il faut qu'il y en ait une qui l'emporte. Alors, le voile nous apparaît aujourd'hui, en 2005, comme quelque chose qui est d'abord imposé aux femmes et parce que dans certaines régions du monde, du Moyen-Orient, il est imposé aux femmes pour les distinguer. C'est une distinction sexiste, et comme il n'y a pas une distinction équivalente imposée aux hommes, encore qu'on pourrait parler de la circoncision, mais comme il n'y a pas quand même vraiment une vision extérieure imposée aux hommes, il y a effectivement quelque chose qui révolte un peu notre esprit aujourd'hui. En même temps, il faut savoir que le voile n'est pas typiquement religieux. Certes, il est agité par des religieux, mais c'est quelque chose de très ancien dans beaucoup de civilisations qui, effectivement, ont un peu pour but le port du voile, de remettre la femme à sa place, en quelque sorte, si j'ose dire, pour ces civilisations-là. Même ma grand-mère, par exemple, n'aurait jamais conçu de pouvoir sortir dehors sans avoir son fichu.
Oui, mais alors, elle n'était pas musulmane.
Non, elle n'était pas musulmane, mais justement, dans la campagne aussi, on portait... Alors,
c'est que là, c'est l'affirmation quand même d'une identité religieuse.
C'est l'affirmation d'une identité culturelle dont, effectivement, ceux qui l'affirment pensent qu'elle est religieuse. Mmh. Et ça, c'est un autre problème. Effectivement, c'est une affirmation. Rien dans le Coran et dans les hadiths ne dit cela. Ou plutôt, ça le dit, ça dépend des traductions, ça dépend des interprétations. Donc là, moi, je suis pas du tout un exégète. Mais effectivement, là, si vous voulez, la problématique, c'est que les gens qui font porter le voile aux femmes pensent qu'ils suivent un Coran rigoureux. Et que nous pensons qu'ils sont en train de stigmatiser les femmes. Alors, la loi, je crois, est venue dire que tant que quelqu'un n'était pas adulte, eh bien, force restait à la laïcité. Et ensuite, moi, à l'université, j'ai des filles qui portent le voile. Effectivement, j'ai pas beaucoup. Hein. Généralement des Comoriennes, d'ailleurs, et pas des Maghrébines.
Ce qu'ils traduisent, c'est ce port du voile traduit sans doute une plus grande pratique religieuse, même si c'est pas simplement la religion, Michel Cadet, et puis qui est encouragé aussi par, on le dit beaucoup, par un contexte international qui est celui du Proche-Orient. Dans quelle mesure est-ce que les Maghrébins sont sensibles à ce qui s'y passe et se sentent éventuellement solidaires, bien entendu, des Irakiens ou des Palestiniens?
Les Maghrébins, en règle générale, sont musulmans. Qu'ils le soient très pratiquants, un peu autres, ils baignent dans une civilisation musulmane, ou plutôt dans une culture musulmane, pas civilisation, sont civilisation française et de culture musulmane. Et évidemment, quand ils voient des pays musulmans qui se retrouvent dans des situations extrêmement difficiles, ils se sentent un peu solidaires. Alors ensuite, comme il y a effectivement tous les moyens d'information actuels, comme il y a aussi la parabole, qui joue dans les deux sens d'ailleurs, soit dit en passant, eh bien évidemment, il y a une espèce de solidarité de type religieux qui joue. Enfin, de type culturel, plus que religieux.
Et qui peut aller d'ailleurs pour certains d'entre eux assez loin, jusqu'au terrorisme. Écoutez, France Inter, Jean-Marc Four, le 12 décembre 2001.
L'enquête sur les attentats du 11 septembre semblait progresser à la vitesse de l'escargot. Et puis coup de théâtre, hier soir, la justice américaine procède à sa première inculpation. Et l'homme inculpé est français. C'est Zacharias Moussaoui, cet homme de 33 ans, arrêté 3 semaines avant les attentats. Je voudrais vous faire écouter le témoignage du frère de Zacharias Moussaoui. Pour lui, son frère s'est transformé.
Mon frère n'est pas quelqu'un qui, à l'époque, jusqu'à 1992, s'intéressait à la religion, ni à sa pratique. Je l'ai jamais vu dans un lieu de culte, j'ai jamais vu pratiquer ne serait-ce qu'une prière. Donc, petit à petit, rentrer dans son discours, un discours franchement virulent vis-à-vis du monde occidental, comme par exemple, discours vis-à-vis des femmes, discours vis-à-vis de la religion musulmane, l'excommunication de populations entières, le fait de légitimer l'assassinat et le meurtre. Donc ce sont quand même des choses qui sont très choquantes. Et c'est là que j'ai compris que j'avais en face de moi une idéologie terrible.
Qu'est-ce qui peut conduire un Français d'origine marocaine, Zacharias Moussaoui, au terrorisme, Michel Cadet, comme d'autres d'ailleurs, ils sont peut-être minoritaires, mais qui sont partis en Afghanistan, qui se retrouvent en Irak, et par quelle filière, et qu'est-ce qui a pu les conduire? On parle souvent, par exemple, de l'influence que peuvent exercer certains imams dans les mosquées.
C'est-à-dire qu'il y a une vision très roumesque, enfin très très internationale de l'islam, qui pensent qu'effectivement les musulmans du monde sont un peu attaqués par les autres et qu'il faut se défendre. Je veux dire que c'est une conception très particulière, très très extrême. Mais c'est une conception extrême qui peut séduire. Les conceptions extrêmes, ça séduit toujours les esprits un peu faibles, et ça séduit aussi les gens qui sont en manque de quelque chose. Ça peut être en manque de reconnaissance, ce qui n'est pas le cas de Zacharias Moussaoui, qui fait ses études à Perpignan, mais qui peuvent être en manque d'autre chose, et à un moment donné, ils basculent. Et ils ont l'occasion de basculer, voilà. Ceci dit, on a vu des intégristes dans d'autres religions que l'islam. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a un mouvement intégriste qui se développe dans l'islam, donc il est, je veux dire, presque automatique, c'est comme l'aimant et le fer, que une partie des musulmans se reconnaissent dans cet intégrisme, qui est une partie très très minoritaire, hein, il faut bien le dire, jusqu'à aujourd'hui, hein, en France et ailleurs dans le monde. Mais effectivement, il y a une composante intégriste de l'islam, comme il y a une composante intégriste du christianisme, et comme il y a aussi une composante intégriste beaucoup plus faible du judaïsme.
Mais le rôle des mosquées, je vous posais la question, on a dit que Zakas Moussaoui, c'est dans une mosquée, c'est quand il est parti à Londres.
Hein,
que
oui, c'est une mosquée londonienne.
C'est pas en France, mais même en France, on dit souvent, par exemple, que les imams, pour la plupart, enfin pour beaucoup d'entre eux, viennent de l'étranger, qu'il n'y a aucune espèce de contrôle qui peut s'exercer sur eux, qui parlent même à peine le français.
Oui, alors le problème, c'est que l'islam est, sauf l'islam chiite, hein, iranien et irakien. Mais l'islam sunnite est un islam sans clergé. Donc tout homme qui se sent capable de diriger la prière et qui donc se sent capable d'être imam peut s'instituer imam.
Alors un islam sans clergé, et puis pendant longtemps qui n'a eu aucune institution représentative, ou plutôt qui en avait trop. Il y en avait trois principales. La plus ancienne, fondée en 1926, la grande mosquée de Paris, très proche, il faut le dire, du gouvernement algérien. L'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France, créée en 83, et la FNMF, Fédération nationale des musulmans de France, né en 1985, et dont le président Mohamed Béchari fait aujourd'hui partie d'une organisation nouvelle, le CFCM, le Conseil français du culte musulman, mis en place il y a 2 ans, France Inter, Serge Martin, le 20 décembre 2002.
Réunis à Nainville-les-Roches, dans l'Essonne, à l'initiative du ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, les responsables musulmans de France se sont mis d'accord pour mettre en place une instance représentative et unique des quelques 5 millions de musulmans qui vivent dans notre pays. Cette instance aura pour nom le Conseil français du culte musulman, et l'un de ses vice-présidents pourrait être le responsable de la Fédération nationale des musulmans de France, Mohamed Béchari, qui a expliqué à Nathalie Bourrus quel allait être le rôle de ce Conseil français du culte musulman.
C'est un instrument qui doit défendre les intérêts de la communauté musulmane. La communauté, à travers son CFCM, va afficher ses positions. Puis on est amené, comme toutes les composantes religieuses de ce pays-là, à répondre à certaines questions de société. Bon, l'école, du système IVG, par exemple, des questions qui sont liées au quotidien et liées à la coexistence sociale, où les religions donnent leur avis, pourquoi pas les musulmans.
Et c'était donc la création du CFCM il y a 2 ans, le Conseil français du culte musulman, première institution représentative des musulmans de France, qui sont essentiellement, Michel Cadet, des maghrébins, qui a montré cette institution la solidarité des maghrébins de France, en tout cas des musulmans de France, avec l'enlèvement de Georges, au moment de l'enlèvement de Georges Malbruno et de Christian Cheynaud. Est-ce que on peut dire qu'elle favorise cette institution, même si elle ne représente pas que les maghrébins, parce que c'est tous les musulmans de France, mais enfin c'est essentiellement eux, l'intégration?
Je pense, parce que justement vous parliez des imams un peu sauvages, etc. C'est destiné à essayer de trouver un cadre d'expression de l'islam qui ne soit pas nécessairement un cadre contre, mais qui soit un cadre pour ou un cadre neutre, comme peut l'être relativement l'Église catholique ou les organisations juives. Hein. L'État, qui est en plus un État très jacobin, le cherche depuis qu'il y a des musulmans sur le sol français. Bon, on est enfin arrivé après de très longues négociations, discussions.
Ça a été initié par Jean-Pierre Chevènement.
Et ça a été initié par Jean-Pierre Chevènement, continué par Vaillant, achevé par Sarkozy, qui prouve qu'il y a quand même une continuité de l'État, donc, qui est de trouver les moyens d'un dialogue avec une religion qui est une religion nouvelle et qui est une religion importante dans notre pays.
La deuxième de France. Autre moyen d'intégration, on l'a entendu, il y a bien entendu l'accession, alors il faut la rendre possible, de certains maghrébins à de hautes responsabilités. On l'a vu avec Toka Saïfi, on l'a vu aussi avec un préfet musulman. On a parlé à cette occasion de discrimination positive. Michel Cadet, qu'est-ce que vous en pensez, ça? Est-ce que c'est pas au contraire enfoncer ou plutôt ghettoiser en quelque sorte une population qui n'est considérée et qui n'a accès à la société que parce qu'elle est musulmane ou maghrébine?
Et non, je crois que si on ne le met pas trop en avant, je suis pas contre moi ce style de choses, mais au fond, dire un préfet musulman, je crois que c'est pas le premier, et c'est pour ça que ça pose problème. Moi, dans mon université, il y a de nombreux universitaires d'origine musulmane, enfin, d'origine maghrébine, d'ailleurs, certains ne sont pas musulmans. Donc, oui, je crois que quand même, On a laissé les musulmans de France, les maghrébins en particulier, on les a quand même bien laissés dans une situation difficile parce que économiquement, ils se retrouvaient à appartenir à un groupe économique qui était celui des ouvriers, des manœuvres, etc., et qui n'a pas eu les moyens de se soutenir. Alors je crois que c'est une discrimination positive, mais qu'il faut pour l'ensemble de ceux qui n'ont pas eu de chance finalement, pour des raisons sociales, et pas uniquement pour les maghrébins. Mais pour tous ces gens qu'on appelle un peu, de façon quelquefois un peu méprisante, pour les gens des cités et des quartiers, dans les cités et des quartiers, il faut leur permettre de faire leurs preuves comme aux autres.
Et puis il y a bien sûr aussi le livre auquel vous avez participé, on parle beaucoup, l'intégration par la culture et aussi par la musique, comme le raï, né en Oranie à la fin du 19e siècle, aussi populaire chez les beurs que chez les autres jeunes de France, et qui nous servira exceptionnellement de générique de fin avec Khaled Didi.
يلا بحبوا عليا وانتي هلا نديرك بعيدة ما نبكي هلاك نظلمي مولا البوب زين ديدي 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 سين ديدي واه ديدي واه ديدي ديدي يا سين داي
Je rappelle que mon invité, Michel Cadet, donc participé à l'ouvrage collectif dirigé par Mohamed Reguil, Maghrébin de France, de 1960 à nos jours, La naissance d'une communauté, un livre publié chez Privat. Michel Cadet a également écrit L'écran bleu, la représentation des ouvriers dans le cinéma français, un livre édité aux presses universitaires de Perpignan. À lire également Voyage dans la France musulmane de Sadek Hadji et Stéphane Marteau. Ces références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à tous ceux qui sont derrière la vitre, Olivier Daligo, Claire Destacan, Claire Tesser, Amélie Briand et bien sûr Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, un empire oublié, comme sa capitale encore l'a été pendant 4 siècles dans la forêt cambodgienne, l'empire des Khmers. Mais tout de suite, à 14h30, sur France Inter, celui qui aurait rêvé de connaître les apsaras, les danseuses de pierre du temple d'Angkor Wat, Eric Oswald.
Qu'est-ce qu'elle a, ma Khmer, Patrice? À demain.
Encore.